Madeleine Ferrat, chapitre 7. Vers le milieu de janvier, Guillaume dut se rendre à Mantes. Une affaire d'intérêt dont il n'avait pu confier le soin à personne devait l'y retenir toute la soirée. Il partit en cabriolet et dit à Madeleine qu'il rentrerait vers les 11 heures. La jeune femme l'attendit en compagnie de Geneviève. Après le dîner, quand la table fut desservie, la protestante étala sa grande Bible comme d'habitude. Elle lut çà et là les pages qui lui tombèrent sous les yeux. Vers la fin de la soirée, le livre s'ouvrit à ce touchant poème de la pécheresse versant des parfums sur les pieds de Jésus, qui lui pardonne ses péchés et lui dit d'aller en paix. La fanatique choisissait rarement un passage du Nouveau Testament. Ses récits de rédemption, ses paraboles d'une poésie tendre et exquise, ne contentait pas les ardeurs sombres de son esprit. Ce soir-là, soit qu'elle obéît au hasard qui avait ouvert la Bible à un passage de miséricorde, soit qu'elle fût émue par une pensée vague et inconsciente, elle psalmodia l'histoire de Marie-Madeleine d'une voix recueillie, presque douce. Elle murmurait dans le silence de la salle « Et une femme de la ville qui avait été de mauvaise vie » ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, y apporta un vase d'albâtre, plein d'une huile odoriférante, et se tenant derrière, aux pieds de Jésus, elle se mit à pleurer. Elle lui arrosait les pieds de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux. Elle lui baisait les pieds et elle les oignait avec cette huile. Elle continua ainsi, élevant le ton, laissant tomber un à un les versets, lentement, comme des pleurs étouffés. Madeleine, jusque-là, avait fait son possible pour ne pas l'entendre. Une soirée en tête-à-tête avec elle l'effrayait. Elle lisait elle-même un livre au coin de la cheminée, s'enfonçant dans sa lecture, attendant Guillaume avec impatience. Les quelques mots qu'elle saisissait malgré elle de la psalmodie de Geneviève lui causaient une sorte de malaise. Mais quand celle-ci commença l'histoire de la pécheresse repentante et pardonnée, elle leva la tête, elle écouta, prise d'une émotion poignante. Les versets tombaient un à un, et Madeleine croyait que la grande Bible parlait d'elle, de sa honte, de ses pleurs, de ses parfums de tendresse. Ce poème de douleur et d'adoration n'était-il pas le sien? Elle s'était agenouillée. Et Guillaume lui avait pardonné. Une douceur ineffable la pénétrait peu à peu, à mesure que le récit se déroulait, comme coupée par des soupirs profonds, des soupirs de remords et d'espérance. Elle suivit phrase à phrase, attendant avec ferveur la dernière parole de Jésus. Enfin, le ciel lui disait qu'il suffisait d'avoir beaucoup aimé, d'avoir beaucoup pleuré, pour goûter la joie de la rédemption. Elle songea à sa vie passée, à sa liaison avec Jacques. Le souvenir de cet homme, qui la brûlait encore parfois, ne lui causa plus qu'un attendrissement de repentir. Toutes les cendres de cet amour étaient froides, et un souffle de miséricorde venait de les emporter. Comme la Madeleine dont elle portait le nom, elle pouvait vivre au désert, se purifiant dans son amour. C'était une suprême absolution qu'elle recevait. Si parfois, lorsque Geneviève lisait, il lui avait semblé entendre des bouches invisibles, cachées dans l'ombre de la vaste salle, la menacer d'un châtiment terrible, elle croyait, en ce moment, saisir des voix caressantes qui lui donnaient des assurances d'oubli et de félicité. Quand la protestante arriva à ce verset, puis Jésus dit à la femme « Tes péchés te sont pardonnés. » Madeleine eut un sourire de céleste joie. Elle sentait des larmes de remerciement lui monter aux yeux. Elle ne put s'empêcher de témoigner tout le bonheur qu'elle venait d'éprouver. « C'est une belle histoire, » dit-elle à Geneviève. « Je suis heureuse de l'avoir entendue. Vous me la lirez quelquefois. » La fanatique avait levé la tête. Elle regardait la jeune femme, de son regard dur, sans répondre. Elle paraissait surprise et mécontente de son goût pour les poèmes tendres du Nouveau Testament. « Que je préfère ce récit, » continua Madeleine, « aux pages cruelles que vous lisez le plus souvent. Allez, le pardon est doux à accorder, doux à recevoir. La pécheresse et Jésus vous le disent. » Geneviève s'est élevée. Elle se révolta aux accents émus de la jeune femme. Ses yeux prirent un éclat sombre, puis, fermant la Bible bruyamment, elle cria de sa voix fatale « Dieu le Père n'aurait pas pardonné !» Cette parole terrible, pleine d'un fanatisme farouche, ce blasphème qui niait toute bonté, glaça Madeleine. Il lui sembla qu'un manteau de plomb lui retombait sur les épaules. Geneviève la repoussait brutalement dans l'abîme dont elle venait de sortir. Le ciel n'avait pas de pardon. Elle était une sotte d'avoir rêvé la douceur de Jésus. Elle fut prise à ce moment d'un véritable désespoir. « Qu'ai-je à redouter ? » pensait-elle. « Cette femme est folle !» Et malgré elle, le pressentiment d'un coup qui l'aurait menacée la faisait regarder autour d'elle d'un air inquiet. La vaste salle dormait dans la lueur jaune de la lampe, le feu luisait sur les briques de la cheminée. Tout ce qui entourait la jeune femme, ce grand silence d'une nuit d'hiver, cette lumière voilée qui traînait autour d'elle, lui paraissait cacher un malheur insondable. Geneviève était allée à la fenêtre. « Voici Guillaume, » dit-elle en revenant au milieu de la pièce. Une clarté rouge avait couru sur les vitres. Le bruit d'une voiture s'arrêtant devant le perron s'était fait entendre. Madeleine, qui attendait son mari avec impatience quelques minutes auparavant, resta assise au lieu de courir à sa rencontre, regardant la porte avec une étrange anxiété. Son cœur battait douloureusement, sans qu'elle pût dire pourquoi. Guillaume entra vivement. Il avait l'air fou, mais d'une folie de joie. Il jeta son chapeau au loin, sur un meuble, et s'essuya le front, bien qu'il fît grand froid au dehors. Il allait, il venait. Enfin, il s'arrêta devant Madeleine. Dès qu'il eut retrouvé la voix, « Devine qui j'ai retrouvé à Mantes !» lui demanda-t-il avec une terrible envie de lui dire tout de suite son secret. La jeune femme, toujours assise, ne répondit pas. Le bonheur bruyant de son mari la surprenait, l'effrayait presque. « Voyons, » répéta-t-il, « devine, cherche, je te le donne en mille. »« Mais je ne sais pas, » dit-elle enfin, « nous n'avons pas d'amis dont la rencontre puisse te rendre si joyeux. » « C'est ce qui te trompe. J'ai rencontré un ami, le seul, le meilleur. »«
Un ami ?» reprit-elle vaguement épouvantée.
Guillaume ne put garder sa bonne nouvelle plus longtemps. Il prit les mains de sa femme et, brusquement,
« J'ai retrouvé Jacques !»
s'écria-t-il avec une explosion de triomphe. Madeleine ne poussa pas un cri, ne fit pas un geste. Elle devint affreusement pâle.
« Ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle. « Jacques est mort !»«
Et non, il n'est pas mort !»«
C'est toute une histoire, je te la conterai. Quand je l'ai aperçu à la station de Mantes, j'ai eu peur de lui, je le prenais pour un revenant. »
Et il se mit à rire, d'un rire d'enfant heureux. Il avait laissé aller les mains de Madeleine, qui étaient retombées inertes sur les genoux de la jeune femme. Elle restait écrasée sous le cou, sans voix, morte. Elle aurait voulu se lever pour fuir, qu'elle n'aurait pu remuer un membre. Dans les bêtements de son être, elle n'entendait que les paroles atroces de Geneviève.
« Dieu le Père n'aurait pas pardonné !»
Dieu le Père, en effet, ne pardonnait pas. Elle avait bien senti que le malheur rôdait autour d'elle, près de l'étreindre à la gorge. Stupide, elle regardait les murs comme si elle n'eût point connu la vaste salle. La paix de cette pièce lui semblait terrible, maintenant que l'épouvante battait dans son cerveau, avec un bruit assourdissant. Elle finit par fixer ses regards sur la protestante. Elle se disait « C'est cette femme qui est la fatalité. C'est elle qui est allée ressusciter Jacques pour le mettre entre mon mari et moi. » Guillaume, que la joie aveuglait, s'était approché de Geneviève. « Il faudra préparer la chambre bleue, » lui dit-il. « Jacques vient demain ?» demanda la vieille femme qui traitait toujours le chirurgien en petit garçon. À cette question, qui retentit dans son accablement, Madeleine se leva enfin. Appuyée sur le dossier de son siège, chancelante, « Pourquoi viendrait-il demain ? » dit-elle rapidement d'une voix fiévreuse. « Il ne viendra pas. Il a vu Guillaume à Mantes, c'est tout ce qu'il voulait. Il est allé à Paris, n'est-ce pas ? Il doit avoir des affaires, des gens à visiter. » Elle balbutiait. Elle ne savait plus ce qu'elle disait. Guillaume partit d'un joyeux éclat de rire. « Mais Jacques est là !» dit-il. « Il sera ici dans une seconde. Tu penses bien que je ne l'ai pas lâché. Il aide à dételer le cheval qui s'est blessé. Les chemins sont atroces et la nuit est d'un noir. » Puis il alla ouvrir la fenêtre et cria « Hé, Jacques, dépêche-toi !» Une voix forte, qui venait des ténèbres de la cour, répondit « Oui, oui !» Cette voix frappa Madeleine en pleine poitrine comme une masse de fer. Elle se laissa glisser de nouveau sur son siège, en poussant un soupir étouffé, un râle d'agonie. Oh, qu'elle aurait voulu mourir! Qu'allait-elle dire quand Jacques entrerait? Quelle serait son attitude entre ses deux frères, son mari d'aujourd'hui et son amant d'autrefois? Elle devenait folle à l'idée de la scène qui allait se passer. Elle pleurerait de rage et de douleur. Elle se cacherait le visage entre les mains, tandis que Jacques et Guillaume s'écarteraient avec dégoût. Elle se traînerait à leurs pieds, follement, n'osant plus se réfugier dans les bras de son mari, désespérée d'avoir jeté sa honte comme un abîme entre ses amis d'enfance. Et elle se répétait ces paroles. « Jacques est là. Il sera ici dans une seconde. » Chaque seconde qui s'écoulait était pour elle un siècle d'angoisse. Les yeux fixés sur la porte, elle baissait les paupières au moindre bruit pour ne pas voir. Cette situation, cette attente qui dura au plus une minute, renferma toutes les souffrances d'une vie. Guillaume continuait à marcher joyeusement de long en large. Il finit cependant par s'apercevoir de la pâleur de Madeleine. « Qu'as-tu donc ? » lui demanda-t-il en s'approchant. « Je ne sais, » balbutia-t-elle. « J'ai été souffrante toute la soirée. » Puis, faisant un effort, elle se souleva, elle appela tout ce qui lui restait d'énergie pour fuir, pour retarder la terrible explication. « Je vais me retirer, » dit-elle d'une voix un peu plus ferme. « Ton ami nous retiendrait longtemps à causer, et j'ai vraiment besoin de sommeil. Ma tête éclate. Tu me le présenteras demain. » Guillaume, qui se faisait une fête de mettre face à face les deux seules affections de sa vie, fut contrarié du malaise subi de sa femme. Depuis Mantes, il avait fouetté rudement son cheval. La pauvre bête s'était même luxée une jambe en glissant dans une ornière. Il éprouvait une envie d'enfant d'être à la Noiraude. Il aurait voulu pousser déjà la porte de la salle à manger, s'imaginant avec des attendrissements de joie la scène émue qui s'y passerait. Un instant, il eut la fantaisie puérile de jouer une petite comédie. Il présenterait Jacques comme un étranger et jouirait de l'étonnement de Madeleine quand elle apprendrait le nom de l'inconnu. C'est qu'il était en réalité fou de contentement. Son cœur allait être plein désormais, plein d'un amour et d'une amitié qui ferait de son existence un long bonheur. Il se voyait, unissant les mains de Madeleine et de Jacques, disant à l'une et disant à l'autre « Voici ton frère, voici ta sœur. Aimez-vous, aimons-nous tous les trois jusqu'au dernier souffle. » Ses tendresses nerveuses se plaisaient dans ce rêve. Il insista pour retenir sa femme. Il lui était dur de remettre au lendemain les jouissances de cœur qu'il se promettait depuis Mantes. Mais Madeleine paraissait si souffrante qu'il la laissa se retirer. Elle allait sortir par la porte qui donnait sur le vestibule lorsqu'elle crut entendre un bruit de pas. Elle se rejeta en arrière d'un mouvement brusque et effaré, comme si elle eût voulu échapper à une agression subite. Puis elle se hâta de disparaître par une porte qui conduisait au salon. Elle avait à peine refermé cette porte que Jacques entra. « Ton cheval est fort mal arrangé, » dit-il à Guillaume. « Je suis un peu vétérinaire, je crois ta bête perdue. » Il disait cela simplement pour parler, regardant, cherchant dans la pièce, d'un air curieux. Lui qui comprenait un peu l'amour en garnement, il était très intrigué de savoir quelle femme avait pu épouser son ami, ce cœur délicat et faible dont les enthousiasmes amoureux le faisaient bien rire autrefois. Guillaume comprit l'interrogation muette de son regard. « Ma femme est souffrante, » dit-il. « Tu la verras demain. » Puis, se tournant vers Geneviève, qui n'avait pas encore quitté la salle, « Vite !» reprit-il. « Fais préparer la chambre bleue. Jacques doit être brisé de fatigue. » La protestante s'était aperçue de l'émotion poignante de Madeleine. Une curiosité âpre l'avait seule retenue dans la pièce. Depuis longtemps, son esprit d'inquisiteur flairait le péché chez la jeune femme. Cette belle et forte créature, aux cheveux roux, aux lèvres rouges, exhalait pour elle une odeur charnelle, infernale. Malgré les répugnances de sa religion pour les images, la fanatique possédait dans sa chambre une gravure de la Tentation de saint Antoine, dont le tohu-bohu démoniaque plaisait à sa nature visionnaire. Ces diablotins qui tourmentaient le pauvre saint avec d'atroces grimaces, cette bouche de l'enfer qui s'ouvrait pour engloutir la vertu à la moindre défaillance, était un symbole fidèle de ses croyances religieuses. Dans un coin, des femmes étalaient lascivement leurs gorges nues devant le vertueux ermite, et le hasard avait voulu qu'une de ces femmes eût une lointaine ressemblance avec Madeleine. Cette ressemblance frappait singulièrement l'imagination ardente de Geneviève. Elle s'épouvantait en retrouvant dans la jeune épouse de Guillaume le sourire gras, la chevelure insolente de la courtisane, du monstre vomi par l'abîme. Souvent même, elle l'appelait, dans sa pensée, avec une exaltation d'exorciste, de l'épithète latine « Lubrica », qui se trouvait écrite sur la marge de la gravure, au-dessous de la diablesse. Tout le bas de cette image, grossièrement imprimée, était ainsi couvert de noms figurés personnifiant un vice dans chaque démon. Lorsque, à la nouvelle de la résurrection de Jacques, le visage de Madeleine eut de brusques contractions, Geneviève fut convaincue que c'était le diable dont elle se trouvait possédée qui la forçait à faire malgré elle ses grimaces de douleur. Elle crut apercevoir enfin la bête immonde cachée sous cette peau nacrée, dans cette chair de perdition, et n'aurait pas été trop étonnée de voir le corps superbe et voluptueux de la jeune femme se changer en un monstrueux crapaud. Si elle ne comprit pas le drame qui secouait la malheureuse, elle eut conscience que le péché l'étouffait. Aussi se promit-elle de la surveiller pour la mettre hors d'état de nuire, dans le cas où elle tenterait de faire rentrer à la Noiraude Satan, qui en était sorti avec l'âme de Monsieur de Viargues par la cheminée du laboratoire. Elle se décidait à monter pour préparer la chambre bleue, lorsque Jacques prit gaiement ses mains sèches. Il s'excusa de ne pas l'avoir aperçue en entrant et renouvela connaissance avec elle. Il lui fit compliment sur sa bonne mine, lui dit qu'elle rajeunissait, finit même par amener un sourire à ses lèvres pâles. Il avait l'entrain un peu lourd d'un garçon bien portant, qui a vécu libre et joyeux, sans secousse de cœur. Quand Geneviève se fut retirée, les deux amis s'assirent devant le foyer à demi éteint. Un brasier rose luisait sur les cendres. La grande salle reprenait sa paix endormie.
« Tu dors debout, » dit Guillaume en souriant.
« Mais je ne te garderai pas longtemps. Ta chambre sera vite prête.
Ah, mon pauvre Jacques, qu'il est bon de se retrouver.
Causons, veux-tu ? Causons comme autrefois devant cette cheminée où nous réchauffions nos mains glacées au retour de nos fameuses pêches.
En avons-nous pris de ces écrevisses ?»
Jacques souriait, lui aussi. Ils causèrent des jours écoulés, du présent, de l'avenir. Leurs souvenirs et leurs espérances allaient au hasard de la conversation. Déjà, pendant le trajet de Mantes à Vétheuil, Guillaume avait accablé son ami de questions sur la façon dont il s'était sauvé des flots, sur son long silence, sur ce qu'il comptait faire désormais. Il connaissait l'histoire de Jacques, et cela faisait répéter, avec de nouvelles expansions et de nouveaux étonnements. Le journal que Guillaume avait lu se trompait. Deux hommes sortirent vivants des débris du prophète, le chirurgien et un matelot, qui eurent la bonne fortune de s'accrocher à une chaloupe qu'emportaient les vagues. Ils seraient morts de faim si le vent ne les avait poussés à la côte. Là, ils furent jetés avec une telle violence sur des galets que le matelot s'y écrasa net et que Jacques y resta évanoui, les côtes à demi rompues. Transporté dans une maison voisine, ce dernier demeura mourant près d'une année. Le médecin Ignard qui le soignait faillit le tuer plus de 10 fois. Quand il fut guéri, au lieu de retourner en France, il continua son voyage et alla tranquillement en Cochinchine, où il reprit son service. Il écrivit une seule fois à son oncle. L'enveloppe contenait une seconde lettre, adressée à Guillaume, que l'avocat de Vétheuil devait porter à la Noiraude. Mais le digne homme était mort, en laissant à son neveu une 10 000 francs de rente. La correspondance de Jacques fut égarée, et jamais il n'eut le courage de reprendre la plume. Il avait pour l'encre et le papier l'horreur des gens d'action. Il n'oublia pas précisément son ami, et il remit de jour en jour les quelques mots qu'il voulait lui adresser. Puis finit par se dire, avec sa belle insouciance de bon vivant, qu'il serait toujours temps de lui donner des nouvelles quand il rentrerait en France. L'annonce de son héritage le laissa assez froid. Il était alors l'amant d'une femme indigène dont l'étrange beauté le charmait. Plus tard, cette femme le lassa. Dégoûté du service, il résolut alors de revenir manger ses rentes à Paris. Il était débarqué la veille à Brest. D'ailleurs, il comptait rester un seul jour à Vétheuil. Il se rendait en toute hâte à Toulon, où se mourait un de ses camarades de campagne, qu'un autre vaisseau venait de ramener dans ce port. Ce garçon l'ayant sauvé d'un mauvais pas, il se faisait un devoir d'aller veiller à son chevet. Ces détails surprirent beaucoup Guillaume, qui croyait écouter une histoire des mille et une nuits. Il ne se serait jamais imaginé que tant de faits pussent se passer en si peu de temps. Lui, dont la vie s'était endormie dans une seule pensée de calme et d'affection. Sa nature douce et oisive s'effrayait même un peu de cette multiplicité d'événements. La causerie des deux amis continuait, joyeuse et cordiale.
« Comment ? » s'écria Guillaume, pour la 20e fois peut-être. « Tu ne me restes qu'un jour. Tu arrives et tu pars de nouveau. Voyons, donne-moi une semaine. »
« C'est impossible, » répondit Jacques.
« Je me ferais un crime de laisser mon pauvre camarade seul à Toulon. »
« Mais tu reviendras. »
« Certes, dans un mois, dans 15 jours peut-être. »
« Mais pour ne plus repartir. »
« Pour ne plus repartir, mon cher Guillaume, je serai à toi, tout à toi. Si tu le désires, je passerai ici la prochaine belle saison. » En attendant, je reprendrai le chemin de fer demain soir.
Tu as une journée, fais de moi ce qu'il te plaira. »
Guillaume n'entendait pas. Il regardait son ami avec attendrissement et paraissait caresser une rêverie heureuse.
« Écoute, Jacques, dit-il enfin, je fais un songe que tu peux réaliser. Viens vivre avec nous. Cette maison est si vaste que parfois nous y frissonnons de froid. La moitié des chambres sont inhabitées et ces pièces vides qui m'épouvantaient jadis me causent encore un vague malaise. Quand tu seras là, je sens que la Noiraude se trouvera toute peuplée. Tu prendras un étage entier si tu veux. Tu y vivras à ta guise, en garçon. Ce que je te demande, c'est ta présence, ce sont tes bons rires et tes franches poignées de main. Ce que je t'offre, c'est notre tranquille félicité, notre paix de toutes les heures. Si tu savais comme il fait tiède et bon dans les coins où se cachent deux amants, n'es-tu pas tenté de te reposer au fond de notre trou perdu? Habite cette demeure, je t'en prie, consens à y passer des années, loin du bruit, loin du monde. Apprends à goûter notre sommeil, et tu verras que tu ne voudras jamais plus te réveiller. Tu nous apporteras la gaieté, nous te donnerons de notre rêverie. Je resterai ton frère, et ma femme deviendra ta sœur.
Jacques écoutait en souriant les paroles émues de Guillaume. Toute son attitude raillait doucement.
« Mais regarde-moi donc » s'écria-t-il pour toute réponse.
Il prit la lampe et s'éclaira la face. Son visage s'était comme épaissi et durci. Les vents de la mer, le grand soleil, l'avaient couvert d'un hâle couleur de brique. Les traits s'en trouvaient empâtés par l'existence rude que le chirurgien avait menée. Il paraissait avoir grandi, être devenu plus gros. Ses épaules carrées, sa poitrine large, ses membres solides en faisaient une sorte de lutteur, aux poings énormes, à la tête bestiale. Il revenait légèrement brut. Les quelques délicatesses de son enfance s'étaient émoussées dans son métier de coupeur de membres. Il avait tant mangé, tant ri, si bien vécu de la vie animale pendant ses années de service, qu'il n'éprouvait plus de besoin de cœur et qu'il lui suffisait de contenter sa chair. Au fond, il restait bon enfant, mais il était incapable de comprendre l'amitié à la façon passionnée, absolue de Guillaume. Il rêvait une vie de plaisir positif, une vie exempte de tout lien passé ici et là, au fond des alcôves les plus tièdes, autour des meilleures tables. Son ami, qui ne l'avait pas encore examiné attentivement, fut surpris de le retrouver si mûr, si enfoncé dans sa graisse. Il n'était plus qu'un enfant débile à côté de lui. « Eh bien, je te regarde, » répondit-il d'un air inquiet, prévoyant où il voulait en venir.
« Et tu ne me renouvelles plus ton offre, n'est-ce pas, mon cher Guillaume ?»
reprit Jacques avec un gros rire.
« Je mourrai dans ton air calme. J'aurai certainement un coup de sang avant la fin de la première année. »«
Non, non, le bonheur fait vivre. »«
Mais ton bonheur ne sera jamais le mien, enfant que tu es. Cette demeure serait une tombe pour moi. Ton amitié ne me sauverait pas de l'ennui écrasant de ces grandes pièces vides dont tu me parles. »
Je suis franc. Je sais que nous ne pouvons nous fâcher. »
Et comme il voyait Guillaume tout désolé de son refus,
« Je ne dis pas, continua-t-il, que je n'accepterai jamais ton hospitalité. Je viendrai vous voir, passer un mois avec vous de temps à autre. Je t'ai déjà demandé à m'installer chez toi l'été prochain. Mais dès les premiers froids, j'irai me chauffer à Paris, m'enterrer ici sous la neige. Ah, mais non, mon brave !»
Sa voix forte, sa gaieté sanguine, blessait le pauvre Guillaume, qui ne pouvait se consoler de voir son cher rêve évanoui.
« Et que comptes-tu faire à Paris ? » demanda-t-il.
« Mais je ne sais pas, répondit Jacques.
« Rien, sans doute. Il y a assez longtemps que je travaille. Puisque mon oncle a eu l'excellente idée de me laisser des rentes,
Je vais vivre joyeusement au soleil. Oh, je ne serai pas embarrassée de mon temps. Je mangerai bien, je boirai sec, j'aurai pour me désennuyer plus de belles filles que je n'en voudrais. Et voilà, mon cher garçon. »
Il eut un nouvel éclat de rire. Guillaume hochait la tête.
« Tu ne seras pas heureux, » dit-il. « À ta place, je me marierai, je viendrai ici, dans cette retraite paisible où le bonheur est sûr. Entends ce grand silence qui nous environne. Regarde la lueur paisible de cette lampe. C'est là ma vie. Dis-toi quelle existence douce tu mènerais dans ce calme parfait, si tu avais au cœur une tendresse, et que tu eusses devant toi, pour contenter cette tendresse des jours, des mois, des années, semblables, également tranquilles. Marie-toi et viens !»
Cette idée de mariage et de retraite dans une chartreuse d'amour finit par paraître singulièrement comique à l'ancien chirurgien.
« Ah ! Quel tempérament d'amoureux ! » s'écria-t-il. « Il ne veut pas croire qu'il n'y a que lui sur la terre bâti de cette façon. Mais mon pauvre ami, on n'en fait plus des maris comme toi. Si je me mariais, je battrais peut-être ma femme au bout de 8 jours, bien que je ne sois pas méchant. Comprends donc que nous n'avons pas le même sang dans les veines. Tu as pour la femme un respect ridicule. Moi, je la considère comme un régal exquis, mais dont il ne faut pas se donner chez soi des indigestions. Si je me mariais et si je me retirais ici, je plaindrais sincèrement la triste créature que j'y enfermerais en ma compagnie. »
Guillaume haussa les épaules.
« Tu te fais plus noir que tu n'es, » dit-il. « Tu adorerais ta femme, tu la regarderais comme une idole le jour où elle te donnerait un enfant. Ne te moque pas de mon respect ridicule. Ce sera tant pis pour toi si tu ne l'as jamais. On ne doit aimer qu'une femme en sa vie, celle qui vous aime, et vivre tous deux de ce mutuel amour. »
« Voilà une phrase que je reconnais, » répondit Jacques avec quelque ironie. « Tu me l'as dite déjà sous les saules du ruisseau. Allons, tu n'as pas changé. Je retrouve mon enthousiaste d'autrefois.
Que veux-tu ? Je n'ai pas changé davantage. Je comprends l'amour autrement. » Une liaison éternelle me ferait peur. J'ai toujours évité de m'acoquiner à une jupe, et je m'arrange de façon à désirer toutes les femmes pour n'en aimer aucune. Le plaisir a sa douceur, mon cher trappiste. »
Il s'arrêta un instant, puis il demanda tout à coup, de sa voix brutale et joyeuse,
« Es-tu heureux, toi, avec ta femme ?»
Guillaume, qui s'apprêtait à plaider en faveur de ses sentiments l'éternelle tendresse, fut calmé par cette question personnelle qui éveillait en lui la sensation délicieuse de ses 4 dernières années de bonheur.
« Oh oui, heureux, bien heureux, » répondit-il d'une voix attendrie. « Tu ne peux t'imaginer une telle félicité, toi qui refuses de la goûter. C'est un bercement sans fin. Il me semble que je suis redevenue enfant et que j'ai trouvé une mère. Depuis 4 ans, nous vivons dans une pure joie. J'aurais voulu que tu fusses là pour apprendre à aimer. Ce silence, cette ombre qui t'effraie, nous ont endormis dans un rêve divin. Et jamais nous ne nous réveillerons, mon ami. J'ai la certitude et l'avant-goût d'une éternité de paix. »
Jacques, tandis qu'il parlait, le regardait avec curiosité. Il avait un vif désir de l'interroger sur sa femme, sur la bonne âme qui consentait à se noyer dans un pareil fleuve de lait.
« Ta femme est jolie ? » demanda-t-il crûment.
« Je ne sais pas, » répondit Guillaume. « Je l'aime beaucoup. Tu la verras demain. »
« Est-ce à Vétheuil que tu l'as connue ? » ?»«
Non, je l'ai rencontrée à Paris. » « Nous nous sommes aimés, et je l'ai épousée. »
Il sembla à Jacques qu'une légère rougeur montait aux joues de son ami. Il eut vaguement conscience de la vérité. Il n'était pas homme à s'arrêter dans son interrogatoire.
« Est-ce qu'elle a été ta maîtresse avant d'être ta femme ? »
demanda-t-il encore.
« Oui,
pendant un an, » répondit simplement Guillaume. Jacques se leva, fit quelques pas en silence, puis il revint se planter devant son ami et, d'une voix grave, «
Autrefois, » dit-il, « tu m'écoutais quand je te grondais. Laisse-moi reprendre pour un instant mon ancien rôle de protecteur.
Tu as fait une sottise, mon brave. On n'épouse jamais sa maîtresse. Tu ignores la vie. Un jour, tu comprendras ta faute. Tu te souviendras de mes paroles.
Ces sortes de mariages sont exquis, mais ils tournent toujours mal. On s'adore pendant quelques années et l'on se déteste le restant de ses jours. »
À son tour, Guillaume s'était levé vivement.
« Tais-toi ! » s'écria-t-il avec une soudaine fermeté. « Je t'aime bien comme tu es, mais je ne veux pas que tu nous juges à l'exemple des autres ménages. Quand tu auras vu ma femme, tu te repentiras de tes paroles. »
« Je m'en repens déjà, si tu le désires, » dit l'ancien chirurgien en gardant son air grave.
« Mettons que l'expérience m'ait rendu sceptique et que je ne comprenne rien à tes raffinements de tendresse. J'ai parlé comme je pense. Il est un peu tard pour te donner des conseils, mais à l'occasion, tu pourras tirer quelque profit de mon avertissement. »
Il y eut un silence pénible. À ce moment, un domestique vint annoncer que la chambre bleue était prête. Guillaume retrouva son bon sourire. Il tendit la main à son ami dans un geste cordial et caressant.
« Monte te coucher, » reprit-il. « Demain il fera jour. Tu verras ma femme et ma petite Lucie. Va, je te convertirai. Je te ferai épouser quelques braves filles et tu finiras par venir t'enterrer dans cette vieille maison. Le bonheur est patient. » « Il t'y attendra. »
Les deux jeunes gens marchaient en causant. Quand ils furent dans le vestibule, au pied de l'escalier, Jacques prit à son tour la main de son vieux camarade.
« Ne m'en veux pas de mes paroles, » dit-il en montrant une grande effusion.
« Je ne désire que ton bonheur. Tu es heureux, n'est-ce pas ?»
Il montait déjà les marches du premier étage.
« Eh oui, » répondit Guillaume avec un dernier sourire. « Tout le monde est heureux ici. À demain !»